Bienvenue à la conférence Alten sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2018. Je laisse à présent la parole à Bruno Benoliel, directeur général délégué. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présent ce soir. Cette conférence téléphonique concerne donc l'activité d'Alten pour le quatrième trimestre 2018, mais plus généralement pour l'année 2018 dans son ensemble. Vous avez dû recevoir le communiqué de presse qui a été publié il y a quelques minutes après la clôture de la bourse. Donc, comme vous l'avez peut-être constaté, notre dynamique de croissance en France comme à l'international est restée forte. Le rythme de croissance organique qui avait fortement accéléré au troisième trimestre s'est maintenu au quatrième, tant sur le plan commercial, sur le plan des recrutements nets, qui ont fortement progressé, et ce, sans incidence sur le taux d'activité. Donc le quatrième trimestre 2018 est le plus élevé de l'histoire d'Alten en nombre de recrutements nets d'ingénieurs, puisque nous avons recruté 1160 ingénieurs supplémentaires ce dernier trimestre. En conséquence de cette croissance très vigoureuse pour l'année 2018, Alten a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2 269,9 millions d'euros à fin décembre 2018, versus 1 984,4 l'année passée, chiffre retraité en données IFRS 15, puisque les données publiées l'an dernier étaient légèrement inférieures en données 2017. La progression du chiffre d'affaires consolidé d'Alten est donc de 14,5% par rapport à l'année passée. En France, notre activité a progressé de 11,3%, hors de France de 17,1%. À données constantes, c'est-à-dire après retraitement des effets de périmètre et de taux de change, la croissance s'établit à 12%, soit plus 11,3 en France et plus 12,7 à l'international. La courbe de croissance d'Alten en France a rattrapé, voire même dépassé au quatrième trimestre l'international. C'est assez rare pour être souligné et la dynamique d'ailleurs reste bonne. L'effet de change s'est amenuisé au cours de l'année. Il représente 1,2% néanmoins sur le chiffre d'affaires de l'année totale. L'effet jour ouvré sur l'année 2018 est extrêmement faible finalement, puisque nous avons 0,40 jours ouvrés de plus qu'en 2017 en cumul, soit un impact de 0,3% sur la croissance organique de l'année, autant dire négligeable. Au dernier trimestre, Alten a réalisé une progression de 16,7%, 14,1% en France et 19% hors de France. Comme je vous le disais, la croissance organique est restée très vigoureuse puisqu'elle a atteint 13,7%, 14,1% en France et 13,3% à l'international. La croissance organique a été légèrement boostée par 0,7 jours ouvrés de plus au niveau du groupe qu'au quatrième trimestre de l'an passé, qu'il a impacté positivement de 1,2%. Comme je vous le disais, le recrutement net est en forte progression en France et hors de France. Malgré tout, le taux d'activité a légèrement progressé à 93,1% ce trimestre, ce qui porte le taux d'activité du S2, donc du second semestre 2018, à 92,7% et celui de l'année complète à 92,4%, identique à celui de 2017. En termes d'effectifs, Alten compte dorénavant 33 700 collaborateurs, dont 29 600 consultants. Pour rappel, nous étions 31 850 à fin septembre, dont 28 000 ingénieurs, et 28 000 il y a un an, fin décembre 2017, dont 24 700 ingénieurs. Au total, nos effectifs ont cru de 5 700 collaborateurs depuis fin 2017. Les effectifs ingénieurs ont cru de 4 900 personnes, dont 3 930 par croissance organique, 1050 en France et 2 880 hors de France. Par différence, nous avons donc cru de 970 personnes par acquisition, toutes les acquisitions étant réalisées cette année à l'international. Donc, notre excellente performance de croissance organique réalisée en 2018 nous permet de débuter 2019 avec un potentiel de croissance satisfaisant. Je vais passer en revue les différentes zones géographiques. Bon, vous verrez, il n'y a aucun changement de tendance par rapport à notre dernier rendez-vous. En France, la croissance de l'activité donc, a accéléré tout au long de l'année pour atteindre 11,3% en année pleine. Les secteurs les plus dynamiques sont, comme la dernière fois, l'aérospatial, plus 16, c'est 25% du CA France, essentiellement grâce à Airbus, et au domaine spatial qui est en très forte progression aussi, puisqu'il fait plus 14. L'énergie est en progression assez sensible aussi, puisque l'activité croît de 14%, ce qui représente 12% du chiffre d'affaires France, dont l'oil and gas qui croît de 15%, alors pas au niveau groupe, j'y reviendrai par la suite, et qui représente 5,5% du chiffre d'affaires, et l'activité nucléaire qui a cru de 18%, et qui représente 4,5% du chiffre d'affaires France. Les sciences de la vie sont en très forte augmentation, plus 23%. Le secteur finance tertiaire s'est singulièrement redressé cette année, puisqu'il est en croissance de 7% en France. Même les télécoms sont en croissance de 13%, essentiellement grâce aux opérateurs. Le ferro-naval progresse de 30% grâce aux projets gagnés chez Naval Group et chez Alstom et Bombardier. Le secteur automobile, qui représente 17% du chiffre d'affaires France, a confirmé son ralentissement en valeur, puisqu'on fait moins 2%. Chez les constructeurs, notre activité est en très légère progression, notre activité est à peu près stable. En volume, notre activité a cru, mais comme vous le savez, nous avons délocalisé pas mal de projets pour PSA en Roumanie et au Maroc, qui ont conduit à un recul du prix moyen de facturation par tête, évidemment. Renault, à contrario, a progressé de façon très significative, plus 12, et Volvo également. Chez les équipementiers qui sont en recul, la baisse était essentiellement due à Valeo et Faurecia. Donc en 2018, la France a réalisé une très belle performance de croissance organique, tous secteurs confondus, même si cette courbe a été pénalisée par le secteur automobile, majoritairement du fait de PSA et Valeo. À l'international, la croissance a accéléré également dans la quasi-totalité des zones géographiques. En Amérique du Nord, notre activité a accru de 28% et de 16% en organique. L'effet de change est resté significatif puisqu'il a impacté négativement l'activité à hauteur de 4,6%. Donc en Amérique du Nord, nous avons le Canada qui représente 14% de la zone nord-américaine. Croissance organique très vigoureuse, supérieure à 30% grâce au secteur banque-finance, tertiaire, ferroviaire et aéronautique. Aux États-Unis, donc 96% de l'activité de la zone nord-américaine. L'activité a cru également de un peu moins, de 11% de façon organique. Les secteurs d'activité les plus dynamiques restent inchangés. C'est toujours l'automobile, plus 30, l'énergie, plus 20, les sciences de la vie, plus 35. Les secteurs finances tertiaires et télécoms sont en léger recul du fait, pour les télécoms, essentiellement des équipementiers. En Allemagne, zone importante mais toujours compliquée, chez Alten et probablement d'ailleurs chez nos concurrents également. C'est le pays où on réalise la performance organique positive, certes, mais la moins élevée, puisqu'elle est de 3%. Il n'y a pas d'effet JO cette année en Allemagne. L'activité est en croissance dans le secteur automobile, un peu moins de 5%, en hausse chez les constructeurs, plus de 6%, mais en léger recul chez les équipementiers. Les performances sont très hétérogènes selon les clients dans l'automobile en Allemagne. L'aérospatial a progressé très légèrement de 1%, malgré, comme vous le savez, la forte baisse des activités TechDoc chez Airbus, que ce soit Airbus Hélicoptère ou Airbus Wings, c'est-à-dire l'avionneur. Si on devait retraiter de la baisse que j'espère ponctuelle dans ces activités-là, l'activité aéronautique aurait progressé de 10% en Allemagne et l'activité en Allemagne toutes activités confondues, aurait progressé de 6%. En Scandinavie, la croissance atteint 11,5%. Donc la Finlande, qui représente le cinquième du chiffre d'affaires de la Scandinavie, a confirmé sa croissance retrouvée, qui atteint 9%, grâce au secteur d'activité principal sur lequel nous sommes présents, à savoir les biens d'équipement intermédiaires et industriels. En Suède, donc 80% du chiffre d'affaires de la zone, la croissance organique est restée satisfaisante, hein, puisqu'elle est de 12%, grâce au secteur des télécoms, en croissance de plus de 20%, de l'automobile et poids lourd, à peu près 15% de croissance, et des autres industries. En Espagne, l'activité progresse de 30%, mais 12% provient des acquisitions. La croissance organique est de l'ordre de 20%, 19% exactement, et ce, malgré deux jours ouvrés de moins qu'en 2017. Tous les secteurs d'activité sont en croissance, que ce soit les secteurs de la défense, plus 40%, de l'énergie, plus 20, de l'aéro, plus 20, de l'automobile, Renault et PSA, plus 40, et des télécoms. En Italie, le rythme de croissance s'est accéléré au second semestre, portant la croissance organique à 14% à fin décembre, malgré trois jours ouvrés de moins. À l'exception des télécoms, qui représentent un peu plus de 10% du chiffre d'affaires de l'Italie, où l'activité recule de 6%, toutes les activités sont en progression, que ce soit l'automobile, plus 18%, c'est 20% du chiffre d'affaires de l'Italie, l'électronique semi-conducteur, plus 60%, 10% du chiffre d'affaires de l'Italie, les autres industries, plus 70%, et le ferro-naval, en progression forte également, de plus de 25%. Le secteur finance tertiaire, qui reste important, puisque c'est un peu moins du tiers de l'activité de la zone italienne, est en progression, plus faible qu'en France, puisque la progression est inférieure à 10%, mais sensible quand même. Au UK, l'activité se stabilise, mais comme vous le savez, les performances par secteur sont hétérogènes. Bon, dans l'oil and gas, qui est un secteur qui en fait est un secteur qui adresse une activité mondiale et qui représente plus que 14% du chiffre d'affaires du UK aujourd'hui, la baisse par rapport à 2017 est spectaculaire puisqu'elle est de 60%, mais elle s'est stabilisée au dernier trimestre. A contrario, le nucléaire, grâce au projet EPR, est en très forte hausse et représente maintenant 5% de l'activité. Le secteur ferroviaire, quasiment inexistant il y a 3 ans, est en progression très sensible et représente 6% du chiffre d'affaires UK. Le secteur automobile, 25% du CA, croît très très fortement, de plus de 40%, de même que le secteur de l'aérospatial, 19% du CA UK, en croissance de plus de 60%, plus de 65%. Donc, hors activité oil and gaz, activité plutôt mondiale, le UK a réalisé une très très forte progression ces deux dernières années et a fortement diversifié ses activités. En Belgique, notre croissance organique est de 12%. À part les télécoms dont l'activité est infime maintenant en Belgique, tous les autres secteurs d'activité sont en progression sensible, notamment les sciences de la vie grâce à la pharmacie, l'activité finance tertiaire dans le secteur bancaire et l'automobile chez Toyota et Volvo principalement. Aux Pays-Bas, la croissance est accélérée encore plus fortement dans cette partie du Benelux puisqu'elle a atteint 20% en 2018. Les secteurs d'activité en très forte croissance sont l'électronique multimédia, essentiellement le secteur des semi-conducteurs, et les industries de biens d'équipement. Le premier est en croissance de plus de 80%, le second de plus de 30%. Et à eux deux, ils représentent pas loin de 50% de l'activité aux Pays-Bas. La zone Asie-Pacifique continue de croître rapidement, de façon organique, puisque la croissance est de l'ordre de 50%. La croissance est très forte en Chine, dans le secteur de l'auto et des semi-conducteurs, et en Inde, un peu moins forte, plus 17%, quand elle était de 60% en Chine, 65%. En Inde, secteur tertiaire et auto pour les marchés locaux. Voilà, si on regarde maintenant notre activité selon l'axe des secteurs d'activité, évidemment à périmètre échange constant, ce qu'on peut dire, c'est que l'accélération de la croissance est matérialisée dans tous les secteurs, aucun n'étant décroissance, pas même le oil & gaz. Il n'y a aucun changement de tendance depuis la dernière publication, forcément. L'automobile, qui représente 21% du chiffre d'affaires, a cru de 9%, Les constructeurs représentent 75% du secteur, les équipementiers 25%. Chez les constructeurs, la croissance moyenne est de 7,5%, les masses des disparités très très importantes entre les constructeurs. D'ailleurs, sans qu'il y ait de tendance par pays, puisque comme je vous l'ai indiqué, la tendance est inverse en France chez Renault et PSA. En Suède, l'activité progresse fortement chez Volvo Cars, moins chez Volvo Trucks. En Allemagne, l'activité progresse fortement chez Porsche, Daimler, mais baisse chez BMW et Ford. Chez les équipementiers, la croissance moyenne est de 13%, avec des performances également très disparates. La hausse est très sensible chez les équipementiers comme Conti, Zadev, Delphi, alors que d'autres sont en baisse sensible comme Valeo, Magneti, Bosch ou Faurecia. L'activité ferro-navale petite, certes, 3,7% du chiffre d'affaires, mais croît fortement à 55%, autant dans le ferroviaire que dans le naval. L'aérospace croît toujours à un rythme soutenu, 16% de notre activité, en croissance de 14% au niveau du groupe. Évidemment, dans l'aéronautique, qui représente près de 14% du chiffre d'affaires, la croissance est réalisée principalement avec Airbus Wings, mais aussi avec Dassault. Les équipementiers sont en croissance assez sensible également, en particulier des équipementiers comme Zodiac, Safran ou Rolls-Royce. Quant au spatial, il a accéléré son rythme de croissance sur Q4 et croît de 12% sur 2018, essentiellement chez des comptes comme Airbus DS, sans surprise, et Ariane Group. Progression sensible aussi des activités de défense et de sécurité, qui représentent un peu moins de 5% de notre chiffre d'affaires, progression de l'ordre de 25%. L'énergie, que nous avons séparée des sciences de la vie, cette fois-ci, pour avoir une présentation plus lisible. Donc l'énergie représente 10,5% du chiffre d'affaires, en croissance de 7,5%. L'activité dans l'oil and gas, qui représente plus que 5,3% de notre activité, s'est stabilisée sur l'année et a renoué avec la croissance au dernier trimestre, grâce à des progressions d'activité sensibles dans quelques comptes. Pour anticiper une question probablement à venir, je ne sais pas et nous ne savons pas si la tendance se confirmera en 2019, eu égard à l'évolution du cours du pétrole. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication contraire. Néanmoins, le pétrole est retombé au niveau où il était avant son pic du mois d'octobre. Dans le nucléaire, qui représente 2,5% de notre chiffre d'affaires, la croissance a fortement accéléré au second semestre pour dépasser les 30%, et elle représente aujourd'hui à peu près 25% sur l'année. Les sciences de la vie, 7,5% du chiffre d'affaires, progressent de 18% grâce à la pharmacie essentiellement. Les autres industries progressent grâce aux biens d'équipement industriels et aux industries de transformation, de près de 25% également. Les télécoms restent en légère progression, de 3% à peu près, mais grâce aux opérateurs qui représentent 70% du secteur, les équipementiers sont en recul sensible, de l'ordre de 14%, à l'exception d'Ericsson en Suède. L'activité électronique multimédia a cru de 11% cette année. Elle représente 6,6% du chiffre d'affaires d'Alten, grâce aux activités des semi-conducteurs, donc vous imaginez bien les comptes, ASML, Infineon, etc., et des comptes de e-commerce. Quant à l'activité finance tertiaire, qui a souvent été une activité dont le taux de croissance était inférieur aux autres secteurs, cette fois-ci, notre rythme de croissance a fortement accéléré au deuxième semestre, puisqu'il est de 19%, alors qu'il n'était que de 9% au premier semestre, portant la croissance annuelle à 14%, et c'est le domaine banque, finance, assurance qui a porté la croissance. En termes de croissance externe, donc Alten a réalisé 10 acquisitions à l'international, cette année. Par rapport à la publication du mois d'octobre, nous avons réalisé 4 acquisitions complémentaires, toujours de petite taille. Une petite société en Suède, 90 consultants dans le domaine de l'IT, nous sommes quasiment absents pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. En Finlande, toujours dans le même domaine d'activité, une petite société de 65 consultants pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. En moyenne, le taux d'EBIT de ces sociétés est d'environ 9%. Aux Pays-Bas, nous avons acquis une société dans le secteur d'activité dans lequel nous n'étions pas, ou très peu, tout ce qui touche à l'ingénierie des systèmes hydrauliques et portuaires. 90 consultants pour un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et un EBIT supérieur à 10%. Et en Allemagne, nous venons de concrétiser l'acquisition d'une société ayant une présence forte chez un compte important, de 90 consultants, chiffre d'affaires de 6 millions d'euros avec un EBIT légèrement inférieur à 10%. La dernière acquisition a été réalisée tout début janvier 2019. Voilà. Donc, nous devrions réaliser en 2019, évidemment, une croissance organique satisfaisante si le contexte économique reste comparable. Le début de l'année ne marque pas d'inflexion de tendance par rapport à l'an passé. Pas même en France, malgré les gilets jaunes qui se promènent sur les ronds-points. La croissance organique embarquée est de l'ordre de 6%. Tous indicateurs opérationnels inchangés, c'est-à-dire sans effet de taux d'activité et sans effet prix. Voilà, je vais laisser la parole aux participants si vous voulez bien ouvrir la conférence.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une première question de Grégory Ramirez. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. Et félicitations pour ce très bon chiffre. Justement, j'en venais au niveau des recrutements, parce que c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et la question se pose aussi au niveau du turnover. Est-ce que l'accélération des recrutements nets s'accompagne aussi d'une poursuite de la baisse du turnover? Et puis, tu parles de croissance embarquée de 6%, mais est-ce qu'on peut considérer que le rythme de recrutement net à turnover constant aura du mal à se maintenir vu le rythme de croissance qu'on a jusqu'ici et que faudrait plutôt s'attendre à un ralentissement naturel de la croissance courant 2019.
Alors, la partie la plus facile de la question, c'est le taux de turnover. Il ne s'est pas réduit. Il est toujours de l'ordre de 25%, 24-25%. On l'a stabilisé et je ne pense pas qu'il se réduira sur 2019. Pour des questions de politique salariale, comme dans toute la profession, puisque pour l'instant, on n'a pas parlé de tarifs. On commence à parler de tarifs avec les clients, mais on n'attend pas des augmentations de tarifs extraordinaires cette année. Donc, les salaires évolueront en conséquence. Ça, c'est propre à la profession. Donc, comme d'habitude, les ingénieurs vont probablement continuer à rejoindre les clients. Donc, notre hypothèse de turnover pour 2019, elle est toujours fixée à 25%. Le rythme de recrutement net, je te rejoins. On a recruté près de 4000 personnes cette année en net contre 2560 l'an dernier. C'est une accélération extrêmement forte. Alors, l'an dernier a été pénalisé, 2017 a été pénalisé par un turnover plus élevé, comme vous savez. Un peu moins cette année, néanmoins, le recrutement a très bien fonctionné. Alors, on est dimensionné pour recruter autant de personnes. Franchement, il faudra attendre la fin du premier trimestre pour voir si notre capacité à générer des recrutements aussi importants de façon continue est capable de se maintenir ou pas. Après, ça dépend des recrutements, ça dépend aussi des projets chez les clients. Je vous ai parlé de taux de croissance important dans tous les secteurs d'activité. Il est plus rare de parler de taux de croissance de l'ordre de 20%. sont des taux de croissance qui sont quand même extraordinaires au sens étymologique. Donc, je parierais quand même, moi, pour un ralentissement du rythme de la croissance. Maintenant, dans quelle proportion, je ne peux pas répondre au mois de janvier. Mais ce qui est sûr, c'est que la croissance embarquée, c'est-à-dire à périmètre constant, évidemment, si on fait la photo de nos effectifs au 1er janvier 2019 et qu'on tire la courbe en imaginant qu'on ne fasse pas de croissance en effectif additionnel, cette croissance organique, si les taux et les prix se maintiennent, elle est de l'ordre de 6%. Voilà. Donc la réalité, enfin, en espérant que l'activité économique tienne, elle sera au-dessus, enfin, j'espère en tout cas.
D'accord. Merci Bruno.
Nous avons une nouvelle question d'Anna Patrice de la société Berenberg. Madame, c'est à vous.
Oui, bonjour. Bonsoir.
Bonjour, Anna.
J'ai quelques questions en plus aussi pour comprendre l'effet sur les marges, parce que vous parlez que c'est pas très facile d'augmenter les tarifs. Donc, est-ce que pour 2019, vous voyez que peut-être on peut avoir l'impact d'inflation de coûts, ou qu'est-ce que vous en pensez à venir? Et l'autre question aussi sur les marges en 2018, parce qu'à l'époque, vous étiez plutôt prudent en indiquant que vous avez aussi un peu de headwinds pour les marges. Avec la croissance organique aussi forte, et j'imagine que le taux d'utilisation aussi est aussi très bon, est-ce qu'on peut atteindre aussi l'amélioration de marge en 2018?
Alors, Anna, je n'ai pas communiqué de façon précise sur les marges de 2018. J'ai indiqué qu'elles seraient probablement au mieux du même ordre que celles de l'an passé, de 2017. Il y a des plus et des moins. Donc là, ce n'est pas une conférence sur la marge. On publiera notre résultat le 20 février. Il faut encore attendre quelques jours. Mais la croissance organique additionnelle, on va dire, sur le dernier trimestre par rapport à ce que on avait même nous-mêmes anticipé, même si on n'est quand même pas très loin, ne joue que sur une partie du trimestre. Donc ça ne va pas générer un surplus de marge très important. Donc je ne revois pas de façon sensible. De toute façon, je ne peux pas aujourd'hui la guidance de marge par rapport à ce que je vous avais indiqué. Je vous ai dit qu'on devrait être légèrement en dessous des 10. Alors, j'avais donné, je crois, une fourchette. Vous avez répondu à des questions sur des fourchettes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si on sera juste en dessous, au niveau, juste au-dessus. Enfin, à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est de regarder 2019. 2019, pour l'instant, les négociations sur les tarifs sont toujours en cours. On n'est pas aujourd'hui... Alors évidemment, on a pris des hypothèses budgétaires. Hein, peut-être j'en saurai un peu plus au niveau au moment de la réunion analyste. Mais c'est assez tôt pour communiquer sur les marges aussi. En règle générale, ce qu'on dit en début d'année, c'est que, comme vous savez, qu'on pilote de façon très réactive les recrutements, les salaires et les prix, c'est que, en toute logique, on devrait en 2019 maintenir les marges de 2018 si on arrive à faire à piloter tous les paramètres opérationnels correctement comme on le fait habituellement, en sachant que l'an prochain, cette année plutôt, en 2019, on va avoir un jour ouvré, on va avoir 250 jours ouvrés. Donc si on regarde 2018 sur S1, il y avait 123,5 jours ouvrés au niveau groupe. 2019, on va en avoir 123. Bon, on va perdre 0,5. Et en S2 2018, on a eu 126,5 jours ouvrés. On devrait être à peu près au même niveau en 2019, en tenant compte du mix géographique. C'est-à-dire qu'on sera même très légèrement en dessous Alors, ça ne jouera pas dans des proportions considérables, parce que il y a aussi de l'activité qui est en work package et qui masque ça, mais on n'a pas non plus d'amélioration à attendre d'un effet jour ouvré qui aurait été positif. Voilà, donc pour l'instant, vous travaillez sur un modèle pour 2019, je resterai prudent sur l'évolution des marges et je considérerais que la marge de 2018 est une hypothèse très crédible.
D'accord, merci beaucoup. Et la question sur le site, si vous pouvez dire déjà la croissance embarquée pour cette année-là et comment ça a commencé, ou ça, vous allez parler plutôt le 20 février?
Non, la croissance embarquée, j'ai dit tout à l'heure, j'ai commenté, j'ai dit qu'elle était de 6%.
6%.
Oui.
D'accord.
Donc, en répondant à une question de Grégory,
oui, j'ai pardon, expliqué... c'est ma... Ok. Et ça, c'est tiré par... Vous pourriez répéter, s'il vous plaît, pas?
Oui, ce que je disais, c'est que donc elle sera de 6%, ça veut dire que si on ne fait plus de recrutement net positif et que mécaniquement on a les mêmes prix et le même taux d'activité, on devrait réaliser une croissance organique de 6%. Bon, évidemment, enfin, l'hypothèse, c'est pas celle-ci, hein, c'est qu'on continuera à faire de la croissance. Maintenant, à quel rythme, c'est compliqué de répondre au mois de janvier, donc nécessairement, on aura une croissance organique supérieure à 6%. Mais l'an dernier, on avait démarré avec une croissance embarquée qui était presque deux fois plus faible.
D'accord. Et la croissance que vous embarquez, c'est dans quel segment plutôt? Ou c'est un peu similaire dans tous les segments?
Bah oui, ça dépend des... c'est écuyé réparti sur l'ensemble des secteurs d'activité.
D'accord. D'accord, merci.
La prochaine question vient de Déric Marcon de la Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Bon, salut Bruno. Déjà, je te souhaite un bon rétablissement parce que ça n'a pas l'air d'aller très fort. J'avais quatre questions.
Ça s'entend tant que ça?
Ah, un petit peu. Mais bon, il paraît que c'est... Les enfants sont malades en ce moment. Tu dois en faire partie. Et j'avais cinq questions, excuse-moi. La première, c'est sur l'auto en 2019. Donc, quand on regarde 2018, tu as quand même une discrépancie assez forte entre France et international. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la croissance de l'international qui, du coup, en 2018 est quand même, tu vois, si tu fais au total, auto, je crois, tu as dit 16%, non, 9%, mais avec la France à 0. Ouais, 9%, mais avec la France à 0.
À moins 2 même.
Moins 2, donc ça fait l'international en très très forte croissance. Est-ce que tu peux revenir sur et pourtant tu dis que c'est pas la fête partout avec des comptes comme BM ou quelques équipementiers. Donc est-ce que tu peux revenir là-dessus et surtout se projeter sur 2019, ton scénario, pareil, en faisant la distinction entre France et international, puisque je te poserai les autres ensuite, si ça te va.
Bon, alors, j'ai pas fait une analyse aussi détaillée sur les projections par secteur pour 2019, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la France va probablement, en 2019, faire un 0+. Si l'activité se tient correctement chez Renault, en fait, ça va dépendre du rythme de poursuite de la délocalisation d'un certain nombre de projets pour PSA au Maroc. Je pense qu'on a fait quand même un gros travail, mais je préfère rester plus prudent. C'est pour ça que 0+, ça me paraît cohérent. L'Allemagne, on a fait 3% de croissance organique dans l'auto cette année. Il y a des programmes importants qui ont été annoncés par des groupes comme Daimler et BM dans le domaine de l'électrique. Est-ce que ça va se traduire à la fois dans les tarifs et dans les projets? Dans les projets, je pense que oui, dans les tarifs, j'en sais rien. En sachant qu'on commence à voir poindre aussi en Allemagne des demandes de nearshore, notamment chez les équipementiers. Mais l'Allemagne, historiquement, dans l'histoire récente, dans l'automobile, alors il y a eu des effets prix qui ont été quand même assez sensibles dans des comptes comme Volkswagen ou BMW, mais on peine à dépasser les 3-4% de croissance organique. Donc, par prudence, je dirais à peu près la même chose. Après, les autres pays où la croissance est forte dans l'auto, c'est la Scandinavie, enfin en clair la Suède, où je n'ai plus le taux de croissance en tête, mais on a fait des croissances supérieures, je crois, attends, je vais te retrouver ça, supérieures à 10%, oui c'est ça. En Suède, on a fait 13% de croissance. Ensuite, l'Espagne, on a fait une croissance de plus de 40% dans l'auto, même si c'est, ça reste modeste au niveau espagnol. C'est évident qu'on ne refera pas la même chose. La Suède, on pourra tenir, je pense, des taux de croissance peut-être inférieurs à 10%, mais en tout cas, j'espère, au-dessus de 5%. Au UK, on a fait une croissance très forte dans l'auto, puisqu'on a cru de 40%. On ne recroîtra pas de la même façon, je pense, parce que le taux de croissance est vraiment très très élevé et que l'automobile représente désormais 25% du chiffre d'affaires UK. Peut-être qu'on fera 20 ou plus. Et ensuite, il y a les États-Unis où on a réalisé aussi une croissance importante dans le secteur automobile, supérieure à 30%, en sachant que l'automobile représente 20% du chiffre d'affaires des US. Et donc, c'est pareil. Je ne m'attends pas à une croissance équivalente, mais j'espère qu'elle atteindra les 20%. Alors après, je n'ai pas décliné le mix hein, par secteur, mais ça donnera sur l'auto, ça devrait donner mécaniquement une croissance qui, si la France reste à zéro, devrait en toute logique, malgré la croissance embarquée, ne pas dépasser la croissance 2018.
D'accord. Super. Très intéressant. Est-ce que tu peux après donner, si tu as des premières infos à donner, sur les dettes de conso des quatre opérations que tu as annoncées ?
Oui.
Comme tu insistais sur la dernière qui avait été closée tout en début de l'année 2019, est-ce qu'on la prend au 1er janvier ? Et puis pareil pour les autres, quand est-ce qu'on les prend dans le scope ?
Alors, il y avait, ont été consolidés fin 2018, donc au dernier trimestre, la société espagnole qu'on avait acquise en début d'année et pour laquelle on a mis à peu près 6 mois à réussir à leur faire sortir des comptes. Donc celle-là, c'est une société qui faisait 19 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on l'a acquise sur 2017 et qu'on a consolidé à compter d'octobre 2018. Ensuite, toutes les sociétés suivantes, à savoir la société indienne, la toute petite qu'on a achetée en septembre, et les trois dernières, enfin les quatre dernières même, seront toutes consolidées à compter de janvier 2019. Il y en a une d'ailleurs qu'on va probablement fusionner, la dernière allemande, je pense qu'on va la fusionner très rapidement dans l'activité auto de l'Allemagne.
Ok, top. Du coup, dans ton 6%, tu n'as pas compté les faits jours parce que tu as considéré que 0,5, c'était pas...
Oui, oui, j'ai fait...
C'est 6% avant effet jour négatif.
Oui, ça ne va pas jouer énormément. Et de toute façon, dans les simulations, en fait, on a, pour tout vous dire, on a plusieurs modèles de simulation de l'embarqué, parce qu'en fait il y a plusieurs approches possibles. Donc on l'a modélisé, le 6% il est à 0,3, à plus 0,3 moins 0,3, donc l'effet jour là-dedans, on va dire que c'est dedans.
D'accord. Une dernière petite question technique, après j'en aurai une dernière. Est-ce que tu penses que la participation elle va augmenter cette année à cause du transfert du CICE en baisse de charge? Il y a certaines sociétés du secteur qui voient un impact négatif direct sur la marge. Est-ce que toi, tu as fait des modélisations là-dessus ou pas?
Non, on ne les a pas faites par société, mais forcément, ça aura un impact sur la participation.
Et en quantité, tu ne sais pas le quantifier aujourd'hui à ce stade?
Pour l'instant, on ne sait pas le sens.
C'est une question qu'on te pose dans un mois, alors. Et ma dernière question, c'était sur... Alors, c'est plus qualitatif. C'est en fait, quand tu regardes la progression que tu as de chiffre d'affaires en France sur Life Science, sur Finance Tertiaire, donc plus 16, si si j'ai bien noté. Comment tu expliques une telle croissance? Parce que, tu vois, si tu regardes ce que dit le Syntec numérique, finalement, le digital, c'est effectivement une croissance très forte. Mais pour toi, tu fasses 16 et que tu serais 100% exposé au segment digital qui n'est que 20% du marché total. Donc, comment tu l'expliques, en fait? Est-ce que c'est des gains de part de marché parce que tu es vraiment meilleur que les autres sur le recrutement et il y a des besoins partout, même en dehors du digital, ou tu as trouvé une recette magique pour croître vraiment beaucoup plus vite que le marché?
Bon, déjà, quand même, on a fait une croissance plus forte que celle du marché, mais pendant longtemps, on a fait une croissance moins forte que celle du marché dans le domaine de la finance, notamment en 2016 et 2017, où le marché était en croissance de près de 10% et nous, on ne décollait pas pour des questions de salaire et de prix de vente. Ces questions-là ont été partiellement traitées, comme je l'ai expliqué, je ne sais plus quand, lors d'un dernier call. Et ça nous a permis, en remontant les tarifs de façon ciblée chez certains clients, de remonter les salaires, et donc par voie de conséquence, de réussir à revenir dans la course. Parce que notre principal problème, c'était le boulet des départs. Bon, partant de là, on a pas mal travaillé sur la partie offre, c'est-à-dire que on a conçu des offres adaptées à la demande des clients sur les aspects fonctionnels et infrastructures. Donc il y a eu un gros travail marketing qui a été réalisé. On a des très bons managers aujourd'hui sur cette activité-là. Il ne faut pas oublier que dans nos métiers, une part très très importante du succès est vraiment liée à la qualité du management. Je ne dis pas qu'avant on n'avait pas des bons, mais on a réussi quand même à faire monter en compétences. C'est un travail qui a pris 2-3 ans, hein, qui a été démarré il y a quelques temps. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et donc ce travail de fond, tout simplement, il paye. Et en fait, on fait 7%, mais il faut regarder de façon assez humble aussi d'où on part. C'est-à-dire que notre base de comparaison, eu égard à la taille d'Alten, elle est relativement favorable. Parce qu'on n'est pas très gros sur ce secteur-là.
C'est 20% de ton chiffre d'affaires en France, c'est ça?
Non, c'est donc financier assurance.
15%.
Ah, sur la France, simplement?
Ouais, sur la France.
Sur la France, banque, finance, assurance, c'est 12% du chiffre d'affaires France.
Et c'est ça qui fait plus 16.
C'est ça qui fait plus 16. Donc, on n'est pas un gros... Enfin, on est gros, hein, je veux pas...
T'es pas encore Capgemini en France.
Voilà, je ne sais pas le dire. C'est ça.
Un grand merci, Bruno. Soigne-toi bien.
Merci, Eric. Bonne soirée.
Bonne soirée.
La prochaine question vient de Charles Le Petit Pas d'Odo BHF. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. Deux questions pour moi. La première peut-être sur le pipeline de M&A. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous voyez, si on pouvait voir des opérations se concrétiser, de nouvelles opérations sur le premier trimestre? Et une deuxième question sur l'Allemagne. Vous avez dit que c'était un marché qui était compliqué pour tout le monde, mais pourtant je comprends que vous avez été essentiellement touché par la baisse de l'activité TechDoc chez Airbus. Du coup, je voulais comprendre un petit peu mieux votre commentaire.
Alors, le M&A, je ne sais pas si on... Alors, on a, comme toujours, hein, des sociétés en cours de due deal. Donc, concrètement, on a des due deals en cours en Inde, en Allemagne, au Portugal, en Europe du Nord, sur l'Europe du Nord. Donc, j'allais dire, c'est rien de particulier, c'est comme d'habitude. Aucune opération très importante non plus, enfin, et chantons. Donc, s'il y a des acquisitions qui se débouquent sur Q1, elles seront... toujours de taille identique à celle qui qu'on a annoncé cette année. Alors pourquoi je dis que l'Allemagne, c'est dur pour tout le monde? Bah parce que déjà, les taux de croissance en Allemagne de la plupart des compétiteurs depuis des années sont aussi à tonne, et que c'est un pays, l'Allemagne, où notre secteur d'activité, même s'il croît en volume, parce que le taux d'externalisation a augmenté, il n'en reste pas moins qu'il est pénalisé par les pressions tarifaires auxquelles on a à faire face, dans des comptes importants, et ça, c'est pas nouveau. Il a été fortement pénalisé, cette activité est fortement pénalisée par les lois qui ont été mises en place il y a quelques années, dites sur l'AUG, qui oblige soit à réduire considérablement ses marges dans les activités de consulting ou d'assistance technique, soit à transformer le business vers des activités de work package qui permettent de s'affranchir des contraintes de l'AUG qui, en clair, conduisent à renchérir de façon très significative les coûts de revient. Le tout dans un marché qui est quand même assez concurrentiel, parce qu'on y trouve quelques gros Allemands et tous les Français. Dans un marché qui est très concentré parce que en Allemagne, l'auto et l'aéro représentent à peu près 80% du marché pour ces deux secteurs, contrairement à la France par exemple, où le marché est beaucoup plus diversifié sur un beaucoup plus grand nombre de verticaux. Et un marché dans lequel les clients ont décidé, une fois n'est pas coutume, de copier les Français et donc de réduire les shortlists qui font que ça permet à des acteurs comme Alten et certains de nos gros concurrents aussi d'ailleurs, de bien s'en sortir parce qu'on fait partie des panels référencés et donc on passe au travers des tamis successives d'année en année dans lesquelles les mailles se resserrent de plus en plus. Mais on est toujours, autant en France par exemple, chez les gros, les shortlists c'est 4-5 personnes, autant en Allemagne on est toujours sur des shortlists à 20 personnes voire plus, enfin 20 sociétés voire plus. Voilà. Donc ça, ça induit aussi un environnement concurrentiel important qui fait que le pricing power, finalement, est extrêmement réduit. Si on rajoute le fait que les Allemands ont très fortement augmenté leur budget de R&D entre les années 2010 et 2014, où là, on avait tous des taux de croissance supérieurs à 20%, et que depuis, les budgets sont stables, même s'ils restent très élevés en valeur, mais comme ils sont stables, et que pour les raisons que j'ai expliquées, finalement, l'augmentation du taux d'externalisation ne se traduit pas en euros, finalement, on est tous sur un marché qui est à peu près, qui vivote en croissance. Donc on est tous confrontés à ces mêmes problèmes.
Ok, c'est clair. Et peut-être un follow-up sur l'aéronautique. Donc les 14% de croissance cette année, ça inclut en fait la baisse d'activité dans la tech doc. L'activité TechDoc. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du taux de croissance que vous auriez fait retraiter de cet impact-là? Et qu'est-ce qui tire, quelles sont les activités précisément qui tirent cette croissance?
Alors, il faut que je fasse un petit calcul pour vous dire exactement. Donc, au niveau groupe, les activités aéronautique, ça représente, je crois, 16%. Je n'ai pas de graphique sous les yeux, mais de mémoire, je crois que c'est ça. Ouais, c'est 16% du CA. Donc le CA étant de 2,269, 70, on va dire.
Monsieur Benolien?
Oui.
Oui, excusez-moi, j'ai un doute. Vous avez terminé de répondre à la question de Charles Le Petit Pas?
Pas du tout. Je suis en train de lui répondre.
Ah, pardon. Oh, d'accord, autant pour moi. Bon, je vous laisse parole.
Donc, Charles, si hors l'impact des activités de TechDoc, la croissance aurait été de 1% supérieure dans le... la croissance aurait été de 17%. Pardon. Si on a cru de 14, elle aurait été de 17 dans le secteur aéronautique. et les activités qui tirent la croissance, ce n'est pas les activités de conception, ni les activités qu'on appelle viscérie, c'est-à-dire d'évolution et mise à jour des technologies existantes. C'est toujours les domaines du manufacturing et engineering qui sont toujours très, très demandeuses, et aussi, et de plus en plus, tous les métiers autour de la data. On a énormément de projets en data analytics chez Airbus et en BI. D'ailleurs, ils vont faire un référencement indépendant. C'est un secteur dans lequel, finalement, il y avait assez peu de projets il y a 3 ans et qui n'était pas structuré du tout. Et là, ça représente vraiment des besoins importants.
Ok, c'est clair.
Voilà. Et à notre connaissance, il n'y a pas de nouveaux programmes qui sont prévus dans l'immédiat.
Ok. Merci beaucoup. Merci, Bruno.
Merci.
Je vous en prie, hein, excusez-moi pour tout à l'heure.
Non, vous avez raison.
Merci. Du coup, nous avons une prochaine question de Laurent Dor, de Kepler Cheureux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, merci. Bonsoir, Bruno. J'avais 3-4 petites questions rapides. Par rapport à l'Allemagne à nouveau, ça fait plusieurs trimestres que tu parles d'une forte baisse sur TechDoc. C'est un drag sur ta croissance 2018 sur le pays. Mais ça représente encore un chiffre d'affaires significatif, cette activité. Et j'aimerais savoir, en fait, si c'est... Théoriquement, ça devrait être un drag beaucoup moins fort sur l'Allemagne. Donc, du coup, est-ce qu'on peut attendre peut-être un chiffre d'affaires Allemagne un peu meilleur en 2019? Et puis, j'ai des follow-up, en fait.
Alors, chiffre d'affaires en valeur absolue, sûrement. En croissance, oui, parce que on ne va pas descendre indéfiniment sur la TechDoc. Donc là, on a vraiment beaucoup réduit la voilure. On est en train de réorganiser les activités. Le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de projets dont une partie a été réalisée auparavant en Allemagne et ou d'ailleurs en Roumanie, qui sont en train de délocaliser un petit peu plus loin. Donc il y a une partie de ces marchés TechDoc qui ne remonteront pas, je pense. Mais je pense que l'activité va se stabiliser et qu'il va se passer le même phénomène que celui qui s'est passé en France avec Delta, c'est-à-dire que l'activité va remonter en volume, mais elle va probablement se stabiliser en valeur.
D'accord, mais ça représente maintenant une toute petite partie de l'Allemagne.
Non, pas une toute petite partie quand même.
Ça fait encore plusieurs dizaines de millions d'euros, cette activité.
Attends, je vais te dire... Non, pas plusieurs dizaines. C'est moins de 2 dizaines. C'est entre 15 et 20 millions d'euros.
Oui, ouais, donc. Ouais, donc normalement, ça ne peut pas être un drag aussi fort que l'année dernière.
Non, c'est sûr. Ah, voilà. Non, c'est sûr que non. C'est-à-dire qu'on a vécu le reflux le plus important.
Ok. Alors la deuxième question, dans ton discours, on parle beaucoup de plus qu'avant de délocalisation. Est-ce que tu pourrais nous refaire un point sur tes effectifs et puis surtout la stratégie, la croissance que tu attends sur 2019 sur les 2-3 zones offshore ou nearshore?
Alors, si on regarde nos ressources nearshore et offshore, bon, elles sont assez concentrées sur 3 zones, comme tu le sais, qui sont Inde, Maroc et Roumanie. Ah. Alors, en Inde, aujourd'hui, on a 1200 personnes qui travaillent en offshore pour principalement les États-Unis, on va dire aux 3/4, et pour un quart pour l'Europe. Ensuite, on a le Maroc, où on a fait une progression très importante, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas loin de 600 personnes au Maroc. Le Maroc travaille exclusivement pour l'Europe et presque quasi exclusivement pour la France, même si un certain nombre de projets allemands qui sont en partie sous-traités aux délégués sanitaires marocains. Et en Roumanie, on a aujourd'hui travaillant pour des activités de New York Shore. On a aussi une activité locale en Roumanie, à peu près 650 personnes. Ce qui nous fait, en total de ressources, un peu plus de 2400 personnes qui aujourd'hui sont sur des delivery centers dans un mode New York Offshore. Ça fait une progression par rapport à l'an passé d'un peu plus de 450 personnes, donc c'est pas rien quand même, hein. Ça veut dire, si on ramène ça, ça fait 25% de croissance, et on s'attend à ce que ça continue à augmenter. Ça va augmenter un peu en Inde encore, et ça va augmenter au Maroc. Alors dans quelle proportion, en fait c'est compliqué de dire, parce que c'est au fil des projets qu'on effectue les ramp-up. On recrute très rarement des centaines de personnes en avance de phase sur les déclarations d'intention des clients pour éviter d'avoir à gérer des remplois qui s'éternisent et des intercontrats locaux dont on ne sait que faire. Donc on évolue au plus près des besoins clients. Après, on a maintenant des activités qui sont quand même bien structurées. L'encadrement technique est de bon niveau, donc on a aussi une capacité à monter relativement vite en ramp-up. S'il fallait qu'on rajoute 300 personnes au Maroc en 6 mois, on serait capable de le faire. Donc il n'est pas impossible pour fixer 2019 à 3000 personnes.
D'accord, mais en gros, c'est 20 à 30% de hausse d'effectifs sur les années à venir, a priori.
Oui.
Ok. Alors j'avais aussi une question sur tes commentaires sur l'automobile et une croissance peut-être pas très différente au niveau groupe de celle de 2018. Quelle est ta visibilité à ce jour sur les plus gros comptes et quel est pourquoi le risque d'avoir à un moment donné dans l'année une forte baisse de la charge chez certains constructeurs? Tu as déjà vécu comme moi 2009. Est-ce que tu peux faire un parallèle? Qu'est-ce qui est différent? Ton degré de confort aujourd'hui?
Il n'y a pas aujourd'hui sur le terrain de warning particulier sur l'activité auto. C'est-à-dire que le rythme et le nombre d'appels d'offres est toujours identique. Les managers ne relayent pas de messages particuliers. On a toujours les mêmes débats chez les mêmes clients. C'est vrai que le contexte n'a pas changé. Maintenant, il y a un truc qui est vrai, c'est que dans l'automobile, enfin dans tous les secteurs, mais dans l'automobile en particulier, les budgets de R&D sont pilotés en fonction du niveau de chiffre d'affaires. Donc je sais qu'il y a des inquiétudes à cause des droits de douane du côté des constructeurs allemands qui d'ailleurs ont eu une fin d'année 2018 difficile. Pour l'instant, ça ne s'est pas traduit en termes de baisse d'activité pour nous, parce que ils ont tous quand même des budgets qui doivent, dans la mesure du possible, maintenir. Les Allemands, notamment pour les problématiques d'émission de normes européennes, et parce que le move vers l'électrique est vraiment engagé, et ils parlent de mettre des milliards d'euros sur la table pour accélérer à la fois le développement des batteries, parce que pour l'instant la technologie elle est plutôt chinoise, et l'accélération de la transformation de leur gamme vers l'hybride à minima, mais surtout vers l'électrique, parce que eux sont les plus pénalisés par les normes européennes compte tenu du profil de leur gamme. Donc au fond, je ne suis pas très inquiet. Alors peut-être que je suis trop optimiste, je ne sais pas, mais je ne suis pas très inquiet sur l'activité auto sur 2019.
Et entre ce qu'ils font en interne et en sous-traitance, tu ne vois pas de stratégie vers une source un peu plus ou outsourcer un peu plus?
Ici, ils outsourcent un peu plus, mais quand ils outsourcent un peu plus, on voit bien dans nos chiffres. C'est pas pour autant qu'on ait une activité qui explose. Et puis il y en a toujours un ou deux pour une raison qui lui est propre. On l'a vu cette année, par exemple, en Allemagne. On a eu une baisse d'activité quand même. chez des équipementiers, alors même que ce n'était pas arrivé depuis, depuis plusieurs années.
D'accord. Alors, ma dernière question, c'est tout simple, c'est j'ai raté le chiffre d'affaires de l'acquisition aux Pays-Bas. C'était annoncé en début de call.
Aux Pays-Bas ?
Je crois que tu as eu dans les différentes acquisitions, oui.
Pays-Bas, 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ok, parfait. Bah, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée.
Je t'en prie. Bon, bonne soirée.
Nous n'avons pas d'autres questions. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez en poser une, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une nouvelle question d'Anthony Dick de Ports-en-Parc. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. J'avais juste une question concernant l'effet prix. Déjà, est-ce que ça serait possible d'avoir, si vous l'avez, l'effet sur 2018? Et aussi, pour revenir en fait à la croissance attendue en 2019 et le fait que l'embarqué en fait ne comprend pas d'effet prix à ce stade, mais j'imagine que vous aurez quand même un effet d'inflation sur les salaires, à moins que la juniorisation puisse compenser ça totalement. Mais et si vous attendez une stabilité des marges, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet prix à prendre en compte en 2019? Merci.
En fait, c'est compliqué de calculer un effet prix aujourd'hui, parce qu'on a des effets de mix très importants à la fois sur les typologies d'offres et donc on peut et sur les différents secteurs d'activité, indépendamment d'ailleurs des complexités qui sont liées aux problématiques de zone et de change. Donc, tant que le groupe était en mode majoritairement consulting ou assistance technique, on arrivait à le modéliser assez bien. Aujourd'hui, avec le développement des work packages, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, on réussit plus ou moins à appréhender l'effet prix au travers de l'évolution. Il y a deux façons de l'appréhender. Il y a raisonner par typologie d'offres et diviser la production, enfin le chiffre d'affaires réalisé par le nombre de jours ou le nombre d'heures produits. Parce qu'il peut y avoir des impacts, par exemple, il suffit d'avoir trois forfaits qui se passent mal pour que ça fasse baisser le prix moyen. Alors qu'en réalité, commercialement, on a pu négocier des augmentations de tarifs. Donc on essaye de l'approcher comme ça, déjà par typologie d'offres, pour avoir une vision à peu près homogène, en sachant que sur toutes les activités complexes de work package et de forfaits, il faut être très prudent sur l'évolution des prix, telle qu'elle ressort des calculs induits. Et ensuite, une autre façon de fonctionner, qui est plus pertinente, c'est de regarder comment évoluent les grilles de tarifs chez les clients en fonction des compétences et des niveaux d'expérience des ingénieurs. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des matrices qui tiennent compte des groupes d'école, de l'ancienneté et des typologies de compétences d'ingénieurs. À l'international, c'est un peu plus simple parce qu'ils ne raisonnent pas en groupe école comme on raisonne en France. Bon, et de regarder comment ces grilles se comportent en fonction de la concentration de nos ingénieurs dans les grilles. Parce que vous avez des boîtes qui ont des gens très expérimentés. Nous, on a quand même pas mal de gens un peu plus juniors en moyenne, puisque notre moyenne d'âge, elle est d'à peu près 30 ans, pour essayer d'en tirer une hypothèse générale. Et encore une fois, le prix dépend aussi de l'évolution de la population. Avec la juniorisation de la population cette année, du fait du turnover et des fortes embauches, même si la majeure partie de nos recrutements, ce n'est pas des débutants, on a recruté proportionnellement un peu plus de débutants cette année. Bon, quand on regarde ça comme ça, on se dit l'effet prix, il a été plutôt de l'ordre de 1,5%. Mais c'est vraiment à prendre sous toute réserve en 2018 parce que, en réalité, on n'est plus capable de le calculer de façon précise. Voilà.
D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y aura un...
Ouais, du coup, pour 2019, pour l'instant, on a pris des hypothèses d'augmentation des prix en ligne avec augmentation des salaires, de telle façon que le ratio prix-salaire n'impacte pas la marge, parce que les prix sont toujours en train d'être négociés. Le raisonnement qui sous-tend tout ça, c'est que de toute façon, les salaires s'ajustent toujours sur les prix, parce que les managers commerciaux doivent tenir leur marge. Et d'une façon ou d'une autre, soit en rajeunissant les équipes, soit en ajustant les augmentations de salaire au niveau de ce que leur permettent les tarifs, on arrive bon an, mal an à maintenir notre marge brute. Après, on peut l'améliorer en étant plus efficace dans la gestion de la productivité sur les projets, ce qu'on fait toujours un peu. Mais après ça trouve aussi ses limites parce que on peut pas faire des gains de productivité de 5% par an, ça c'est pas possible.
Et donc,
Okay.
si je comprends bien, les grilles, en fait, augmentent d'à peu près 1,5%, ou est-ce que ça comprend, en fait, l'effet mix de
Non, ça...
certaines activités, certaines géographies, certains contrats?
Non, ça, bon, ça comprend les effets mix.
D'accord. Et est-ce que vous attendez un effet mix porteur ou pénalisant
Il y en
en
a,
2019?
il y en aura forcément un en 2019 parce que si on regarde déjà par secteur d'activité, par géographie, on voit bien que les choses ont bougé entre 2017 et 2018 et ça continuera à bouger en 2019. Bon, maintenant, c'est pas ça qui va révolutionner l'évolution du prix. Hein. C'est
Ok,
vraiment les
d'accord.
négo, ah, c'est vraiment les négo tarifs chez les clients.
Ok, très bien. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonsoir.
Nous avons une autre question de Dana Patrice de la société Berenberg. Madame, c'est à vous.
Oui, merci Bruno. Est-ce que tu peux répéter les nombres d'ingénieurs en France et international, s'il te plaît, fin 2018?
Alors, bien sûr, donc en France, je ne sais même pas si je l'avais dit d'ailleurs, en France, donc au total, il y a 29 600 ingénieurs. On en a 11 250 en France et 18 350 à l'international.
D'accord. Merci beaucoup.
Nous avons une nouvelle question de Déric Marcon de la Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Oui, salut Bruno, désolé de revenir. Je ne vais pas finir de t'achever et te laisser quand même avec une petite voix pour ce soir, mais j'avais une question sur les tailles de projets que tu vois. Il y a tes concurrents en fait français, qui commencent par un pour ne pas les citer, qui finalement disent on voit de plus en plus gros, de plus en plus d'appels d'offres pour des gros projets. On parle de TCV à 30, 50 millions d'euros, c'est des projets sur 3 ans. Donc même si ça fait, si on le ramène ça en volume annuel de chiffre d'affaires, ça fait des trucs autour de 10 millions d'euros. Est-ce que c'est le genre de choses que tu vois et est-ce que tu constates une évolution par rapport à il y a 2-3 ans? Et est-ce que tu penses toi aussi que ça va s'accentuer ou tu vois pas la même chose et tu bites pas sur les mêmes RSP et donc tu te retrouves pas en
Si,
face de AK et d'Altran sur ce genre de choses?
si. Si, si, je partage complètement la remarque. On a de plus en plus de gros appels d'offres qui portent sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors évidemment, c'est pluriannuel, mais il y en a de plus en plus. Ça concerne essentiellement les mondes de l'auto, l'aéro, le naval, le ferroviaire dans une certaine partie, en fait les grandes industries. Donc c'est tout à fait exact. Et on est de plus en plus contraint de répondre à des appels d'offres de cette nature et qui sont d'ailleurs de plus en plus complexes. Parce que quand c'est un appel d'offres de 30 ou 35 millions d'euros, même s'il est sur plusieurs années, en règle générale, il induit une part de nearshore ou d'offshore, où il a souvent une dimension transnat.
Et ça représente combien ton chiffre d'affaires aujourd'hui, ce genre de choses?
Ça, franchement, je ne saurais pas dire. Franchement, je ne saurais pas dire, mais je sais que j'en ai vu passer quelques-uns à la fin de l'année dernière, sur lesquels il a fallu d'ailleurs répondre en catastrophe, avec d'ailleurs Ça, c'est un effet assez pernicieux de la part des clients parce qu'en fait, c'est des projets pluriannuels dont le chiffre d'affaires affiché est forcément important. Et ensuite, c'est la guerre sur les prix parce que les clients ont l'impression que plus le montant unitaire affiché du projet est important, plus la remise doit être élevée. Mais en réalité, même si c'est un projet qui fait 30 ou 40 millions d'euros, s'il dure 3 ans et qu'il faut mettre 120 ingénieurs dessus, ou 130, il faut quand même bien payer les gens. Donc, mais c'est vrai.
Et donc ces projets pluriannuels, tu arrives à passer des clauses d'augmentation de prix sur les 3 ans ou le prix il est gelé dès le départ de...
Non, en règle générale, en fait, c'est des projets qui sont lotis en work package et il y a un prix par work package au sein des lots. Et normalement, les prix sont fixes. Il peut y avoir des clauses de revoyure en fonction de l'évolution du coût de la vie ou de l'indice Syntec, mais honnêtement, c'est assez rare puisque, en fait, sur des projets de cette taille qui nécessitent un ramp-up, c'est-à-dire une première phase d'investissement pour prise de connaissance du contexte projet, probablement d'ailleurs, il y a des phases de formation des ingénieurs, etc. Les clients, en fait, considèrent que la hausse de prix n'est pas justifiée du fait de la productivité qu'on serait capable de générer au fil du déroulé projet.
D'accord. Ok. Merci, monsieur. Bon,
voilà, mais je...
Monsieur Benoliel.
Oh. Oui.
Pardon. Oui, monsieur Benoliel, nous n'avons pas d'autres questions.
Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à la conférence d'Alten. Je vous donne rendez-vous pour la publication des résultats qui a lieu le 20 février, je crois. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
Mesdames et messieurs, la conférence est désormais terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.